Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série qui concerne l'étude du vainqueur. Et nos deux thèmes seront les suivants. Premièrement, la véritable Église. Et deuxièmement, une réforme au sein de l'Église. Chaque croyant est une personne rassemblée, prise à un endroit et mise à un autre, sortie d'une situation et placée dans une autre réunie à lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, et non à des professions de foi ou à des doctrines, aux enseignements contraires à la sainte parole de Dieu ou à des systèmes aussi, mais seulement à Christ. Il est, lui, Christ, le centre, et le Saint-Esprit ne mènera aucun de nous vers quelque chose qui lui soit inférieur. Il est le grand centre dans cet univers qui est le nôtre et autour duquel Dieu rassemblera tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. La Bible nous dit « Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, or la dispersion était sur le compte du péché. Lorsque le péché pénètre dans l'âme de l'homme, la dispersion s'ensuit. L'affection s'éloigne de Christ et de ceux qui sont à Christ. Il peut se présenter sous de nombreuses formes, dans la tiédeur de l'affection ou dans l'agitation pour quelque chose de nouveau et une insatisfaction générale. Si variés sont donc les chemins dans lesquels le cœur peut errer loin de Dieu. Voyez-vous, lorsque Dieu a sa juste place dans le cœur de l'homme, il n'y a plus de dispersion. Lorsque il est sanctifié en eux, il tient la place qui était prévue pour lui dès le début. Christ, grandissant dans l'âme de cet homme, Dieu ayant sa place en tout au sujet de l'homme, et ceci afin que le monde puisse le voir et que Dieu soit honoré. Car remarquez bien, c'est au vu des païens tout cela. Dieu fera en sorte que les membres de son peuple exposent ainsi leur vie de sorte que ceux qui les entourent puissent voir Dieu en eux. Dieu s'attend à ce que votre lumière puisse luire et soit brillante afin que ceux qui nous entourent puissent voir en nous sa marque et son image, oui, des épîtres de Christ, ni effacées, ni biffées, mais vues et lues par tous. Aussi longtemps que nous sommes ainsi, Dieu est sanctifié en nous. Voilà comment Dieu veut que nous parlions au monde qui nous entoure en ayant une marque céleste, une marque divine sur nous que personne ne peut mal interpréter. Notez les bénédictions qui suivent. Ils habiteront leur pays, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ensuite, lorsque je les aurai rassemblés, je serai sanctifié en eux. Comme si Dieu voulait dire, je vous donnerai des bénédictions, mais vous devez m'avoir en premier. Si vous voulez retourner dans votre pays, revenez vers moi. Nous devons avoir d'abord Dieu dans notre cœur, Dieu sur le trône et notre esprit. Oui, notre esprit et le cœur en ligne avec lui. Et ensuite, toutes nos bénédictions seront correctement utilisées, car nous abusons carrément de toutes nos bénédictions temporelles, à moins que nous ne les tenions dans un bon esprit. Ils habiteront en sécurité, est-il dit. Oui, vous êtes parfaitement en sécurité si votre cœur est tranquille en Christ, n'importe où, et ceci également partout où vous êtes en sécurité, si votre cœur est vraiment en ligne avec Jésus-Christ. Chers amis, si vous voulez que votre âme soit en sécurité, que vos intérêts dans le monde soient saufs, ainsi que vos intérêts éternels, venez tout simplement à Christ. Vivez en Christ. Laissez Dieu être sanctifié en vous. Savez-vous que le Seigneur peut être votre Dieu? Êtes-vous rassemblés? Dieu est-il sanctifié en vous? Christ est-il à vous? Je vous le demande sincèrement. C'est là l'unique moyen de le savoir. Si vous avez le témoignage de l'Esprit Saint avec votre esprit, que vous êtes au Seigneur, alors Dieu doit être sanctifié en vous. Vous devez vivre pour le Seigneur. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez être capable de dire « Christ est à moi ». Et je suis à lui. Alors, vous aurez ce témoignage que le Seigneur est vraiment votre Dieu. Alléluia! La Bible nous dit dans Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » J'ai dit Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Nous vivons, chers amis, dans un monde dans lequel toutes choses passent. Les royaumes, les empires, les villes, les anciennes institutions, les familles, tout ce qui est passible de changement et de corruption. Une seule loi universelle semble prévaloir partout. Dans toutes les choses créées, il y a une tendance au dépérissement. Il y a quelque chose d'attristant et de déprimant dans tout cela. Quel profit a un homme dans le travail de ses mains? N'y a-t-il rien qui puisse subsister? N'y a-t-il rien qui durera? N'y a-t-il rien dont nous puissions dire « cela continuera pour toujours » Vous avez les réponses à ces questions dans les paroles de notre texte. Notre Seigneur Jésus-Christ parle de quelque chose qui continuera et ne passera jamais. il existe une seule et unique chose créée qui est une exception à la règle universelle à laquelle j'ai fait référence. Il y a une seule et unique, vraiment une seule et unique chose qui ne périra jamais et qui ne disparaîtra jamais. Cette chose est l'édifice fondé sur le roc. C'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il déclare dans les paroles de notre texte que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a cinq choses dans ces paroles qui réclament notre attention. Premièrement, donc, vous avez un édifice mentionné dans le texte. Le Seigneur Jésus-Christ parle de mon Église. Quelle est donc cette Église? Peu d'enquêtes peuvent être faites d'une plus grande importance que celle-ci. Par un manque d'attention correcte envers ce sujet, les erreurs qui se sont glissées dans l'Église et dans le monde ne sont ni quelques-unes ni petites, car l'Église dans notre texte n'est pas un édifice matériel, pas du tout. Ce n'est pas un temple fait de mains d'hommes, de bois, de briques, de pierre ou de marbre, mais c'est une compagnie d'hommes et de femmes. Ce n'est pas une église particulière et visible sur terre. Ce n'est pas l'église orientale ou occidentale. Ce n'est pas l'église d'Angleterre ou l'église d'Écosse ou l'église de Rome. L'Église de notre texte est celle qui ne se voit pas beaucoup aux yeux des hommes, mais qui est d'une importance beaucoup plus grande aux yeux de Dieu. L'Église dans notre texte est constituée de tous les vrais croyants dans le Seigneur Jésus-Christ. Elle comprend tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont réfugiés près du Seigneur par la foi et qui en lui sont devenus de nouvelles créatures. Elle comprend tous les élus de Dieu, tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Oui, tous ceux qui ont été lavés dans le sang précieux de Jésus-Christ, tous ceux qui ont été revêtus de la droiture de Dieu, oui, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été sanctifiés par l'Esprit de Christ, toutes ces personnes de chaque pays, de chaque peuple et de chaque langue compose l'Église de notre texte. C'est le corps de Christ, c'est le troupeau de Christ, c'est l'épouse, c'est la femme de l'agneau. Oui, c'est la sainte Église de la profession de foi des apôtres. C'est la compagnie bénie de tous les fidèles. Ceci est donc l'Église bâtie sur le roc. Les membres de cette Église n'adorent pas tous Dieu de la même manière ou n'utilisent pas la même forme de direction, mais ils adorent tous, absolument tous, d'un seul cœur. Ils sont tous conduits par un seul esprit. Ils sont tous, vraiment, et réellement saints. Ils peuvent tous dire « Alléluia » et ils peuvent tous répondre « Amen ». C'est cette Église-là dont toutes les Églises visibles sur terre sont les serviteurs et les servantes. Elles sont l'échafaudage derrière lequel le grand édifice est soutenu. Elles ont leurs divers degrés d'utilité. La meilleure et la plus digne d'entre elles est celle qui forme le plus de membres pour la véritable Église de Christ. Mais aucune Église visible n'a le droit de dire « Nous sommes la seule et véritable Église ». Veillez à être attaché à une doctrine solide sur ce sujet de l'Église. Une faute dans ce domaine peut conduire à des erreurs dangereuses, pouvant ruiner carrément l'âme. L'Église qui est constituée des vrais croyants, c'est l'Église pour laquelle nous sommes spécialement ordonnés pour prêcher. L'Église qui comprend tous ceux qui se repentent et qui croient à l'Évangile, c'est l'Église à laquelle nous désirons que vous apparteniez. Notre travail n'est pas fait et nos cœurs ne sont pas satisfaits tant que vous n'êtes pas devenus de nouvelles créatures et des membres de la seule et véritable Église de Jésus-Christ. En dehors de cette Église, il ne peut pas y avoir de salut. Deuxièmement, je passe au second point. Notre texte ne contient pas seulement un édifice, mais un bâtisseur. Le Seigneur Jésus-Christ déclare « Je bâtirai mon Église ». La véritable Église de Christ est tendrement soignée par les trois personnes de la Sainte Trinité. Dans l'économie de la rédemption, sans l'ombre d'un doute, Dieu le Père choisit et Dieu le Saint-Esprit sanctifie chaque membre du corps mystique de Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, trois personnes et un seul Dieu coopère pour le salut de chaque âme sauvée. C'est une vérité qui ne devrait jamais être oubliée. Néanmoins, il y a un sens particulier dans lequel l'aide de l'Église est attribuée au Seigneur Jésus-Christ. Il est particulièrement et prééminemment vraiment le Rédempteur et le Sauveur. C'est donc cela qu'il nous dit dans notre texte. Quand il dit « Je bâtirai », c'est le travail de construction. Et mon travail particulier, c'est celui de l'Esprit Saint. C'est Christ qui appelle les membres de l'Église en temps voulu. Ils sont les appelés de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 1, verset 6. C'est donc Christ qui les presse. Le Fils donne la vie à qui il veut, est-il dit dans Saint Jean chapitre 5, verset 21. C'est Christ encore qui efface leurs péchés. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son sang précieux. Apocalypse chapitre 1, verset 5. C'est Christ qui leur donne la paix. je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Et c'est encore Christ qui leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jean, chapitre 10, verset 28. C'est toujours Christ qui leur accorde la repentance. Oh oui, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince, oui, comme prince et comme sauveur. Et ceci pour donner la repentance, selon Actes chapitre 5, verset 31. C'est toujours Christ qui leur permet de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, c'est-à-dire Christ, à tous ceux qui croient en son saint nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Jean chapitre 1 verset 12. C'est toujours Christ, alléluia, qui poursuit l'œuvre en eux lorsque elle est commencée. Car je vis et vous vivrez aussi. Saint Jean, chapitre 14, verset 19. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Par lui, chaque articulation et chaque membre du corps mystique des chrétiens est nourri. Par lui, ils sont fortifiés pour remplir leur tâche. Par lui, ils sont préservés de la chute. Il les gardera jusqu'à la fin. Et il les présentera irréprochables devant le trône du Père avec une grande joie infinie. Il est toute chose, et pour les croyants, il est tout en tout. L'agent puissant par lequel le Seigneur Jésus-Christ poursuit cette œuvre dans l'ensemble de ses églises est sans aucun doute le Saint-Esprit. Esprit. C'est lui qui applique Christ à l'âme ainsi que ses bénéfices. C'est lui qui toujours renouvelle, éveille, convainc, même à la croix, transforme, prend hors du monde, pierre après pierre, et l'ajoute à l'édifice mystique. Mais le grand bâtisseur principal qui a entrepris de réaliser l'œuvre de la rédemption et de l'amener à son achèvement, c'est le Fils de Dieu, la parole qui a été faite chair. C'est Jésus-Christ qui bâtit. En construisant la véritable Église, eh bien le Seigneur Jésus-Christ condescend à utiliser de nombreux instruments subalternes. Le ministère de l'Évangile, la diffusion des Saintes Écritures, le reproche amical, la parole prononcée au bon moment, l'influence attirante des afflictions, tous sont des moyens et des dispositifs par lesquels son travail est poursuivi. Mais Christ est le grand architecte qui contrôle absolument tout, qui donne des ordres, qui guide, qui dirige tout ce qui est fait. Ce que le soleil est pour l'ensemble du système solaire, c'est ce que Christ est pour tous les membres de la véritable Église. Saint Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Les pasteurs peuvent prêcher, les auteurs peuvent écrire, mais seul le Seigneur Jésus-Christ peut bâtir, alléluia. Et si ce n'est pas lui qui bâtit, le travail ne va pas avancer. Grande est la sagesse avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ bâtit son Église. Tout est fait au bon moment et de la bonne manière. Chaque pierre, lorsque c'est son tour, est mise au bon endroit. Parfois, il choisit de grandes pierres et parfois, il en avance lentement. Oui, il en choisit des petites. L'homme, voyez-vous, est souvent absolument impatient. Qu'est-ce que nous sommes dans la vie impatients? J'en sais quelque chose. Et nous pensons que rien n'est fait. Mais, voyez-vous, le temps de l'homme n'est pas du tout la même chose que celui de Dieu. Mais pas du tout. 1000 ans à ses yeux sont comme un jour. Voyez-vous, le grand bâtisseur ne commet pas d'erreur. Il sait ce qu'il fait. Et ceci dès le début, il voit même la fin. Il travaille d'après un plan parfait, invariable, et croyez-moi, certain. Ça, vous pouvez me croire. Pour toujours, remercions donc Dieu, car la construction de la seule et véritable Église repose sur les épaules de celui qui est tout-puissant. Bénissons donc Dieu de ce qu'elle ne repose pas sur l'homme. Bénissons toujours Dieu de ce qu'elle ne dépend pas seulement des missionnaires, des pasteurs ou des comités. Christ est le tout-puissant bâtisseur. Il poursuivra son œuvre, croyez-moi, bien que les nations et les églises visibles ne connaissent pas leur tâche. Christ n'échouera jamais. Ce qu'il a entrepris, il l'accomplira certainement. Troisièmement, je passe maintenant au troisième point, c'est la fondation sur laquelle cette Église est bâtie. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Que veut dire, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parle de cette fondation? Parle-t-il de l'apôtre Pierre? À qui il s'adresse? Je pense que non. Sans le moindre doute, je pense cela. S'il parlait de Pierre, je ne vois pas pourquoi il n'a pas dit « Sur toi, je bâtirai mon Église ». S'il avait voulu parler de Pierre, il aurait dit « Je bâtirai mon Église sur toi ». Aussi clairement qu'il a dit « Je te donnerai les clés ». Non, 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 non. Ce n'est pas la personne de l'apôtre Pierre, mais la juste confession que l'apôtre venait tout juste de faire. Ce n'était pas Pierre, l'homme, commettant des fautes et instable, mais c'est la vérité puissante que le Père Céleste avait révélée à Pierre. C'était la vérité à propos de Jésus-Christ lui-même, qui était le roc. C'était aussi le rôle de médiateur et de messie de Christ. C'était la vérité bénie que Jésus était le sauveur promis, la véritable sécurité, le véritable intercesseur entre Dieu et l'homme. C'était le roc et la fondation sur laquelle l'Église de Christ devait être bâtie. Mes chers frères et sœurs, voyez-vous, cette fondation fut posée à un prix très élevé. Il fallait que le Fils de Dieu prenne sur lui notre nature, et que dans cette nature, il vive, il souffre, et qu'il meure, non pas pour ses propres péchés, mais pas du tout, mais pour les nôtres. Il fallait que dans cette nature-là, Christ aller au tombeau et qu'il ressuscite. Il fallait que dans cette nature-là, Christ monte au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, ayant obtenu une rédemption éternelle pour tout son peuple. Aucune autre fondation, si ce n'est celle-là, n'aurait pu porter le poids de cette Église dont parle notre texte. Aucune autre fondation n'aurait pu pouvoir ou pourvoir surtout aux besoins d'un monde de péché. Oh, chers amis, cette fondation-là, ce n'est pas la fondation quelconque, autrefois obtenue et très forte. Elle peut, croyez-moi, porter le poids du péché du monde entier. Elle a porté le poids de tous les péchés et de tous les croyants qui ont été édifiés sur elle. Les péchés de pensée, les péchés de l'imagination, les péchés du cœur, les péchés de la tête, les péchés que chacun a vus et les péchés qu'aucun homme, aucune femme ne connaît, oui, les péchés contre Dieu, les péchés contre l'homme, les péchés de toutes sortes et de toutes descriptions, ce roc puissant, peut porter tout le poids de tous ces péchés et ne s'effondrera pas. La fonction de médiateur de Christ est un remède suffisant pour tous les péchés du monde. Alléluia. À cette unique fondation, chaque membre de la véritable Église de Christ est uni. Dans de nombreuses choses, les croyants sont désunis et en désaccord. Dans le domaine de la fondation de leur âme, ils sont d'une seule pensée. Ils sont tous construits sur le roc. Demandez-leur où ils trouvent leur paix, leur espérance et leur attente joyeuse des bonnes choses à venir. Vous découvrirez que tout découle de cette puissante vérité. Christ, le médiateur entre Dieu et l'homme, et la fonction que Christ occupe comme grand prêtre est sécurité des pécheurs. Quatrièmement, je passe au quatrième point, et ceci pour parler des épreuves impliquées de l'Église auxquelles notre texte fait référence. Il y est fait mention des portes du séjour des morts. Par cette expression, il nous est demandé de comprendre la puissance du diable. L'histoire de la véritable Église de Christ a toujours été celle d'un conflit et d'une guerre. Elle a été constamment assaillie par un ennemi mortel qui est Satan, le prince de ce monde. Le diable haït la véritable Église de Christ d'une haine éternelle. Il est toujours en train de soulever de l'opposition contre tous ses membres. Il presse toujours les enfants de ce monde à faire sa volonté, à injurier et à tourmenter le peuple de Dieu. S'il ne peut pas écraser la tête, il écrasera le talon. S'il ne peut pas priver les croyants du ciel, il les contrariera. Le combat avec les puissances de l'enfer a toujours été l'expérience de l'ensemble du corps de Christ. Il a toujours été un buisson ardent, bien que non consumé, une femme fuyant dans le désert, mais non engloutie. Les églises visibles ont leur temps de prospérité et ont leur époque de paix, mais il n'y a jamais eu un temps de paix pour la véritable Église. Son conflit est perpétuel, son combat ne cesse jamais. Le combat, voyez-vous, avec les puissances de l'enfer et l'expérience de chaque membre individuel de la véritable Église. Chacun, absolument chacun, doit lutter. Que sont les vies de tous les saints, si ce n'est des récits de combat? Parfois, leurs personnes ont été assaillies, et parfois, leurs propriétés. Oui, parfois, ils ont été tourmentés par des calomnies et des diffamations, et parfois par une persécution ouverte. Mais d'une manière ou d'une autre, le diable a toujours été en guerre contre l'Église. Les portes du séjour des morts ont continuellement attaqué le peuple de Christ. Frères et sœurs, pasteurs et missionnaires, nous qui annonçons l'Évangile, pouvons présenter à tous ceux qui viennent à Christ de grandes et précieuses promesses. Nous pouvons vous offrir audacieusement au nom de notre Maître la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Oui, la miséricorde, une grâce gratuite et un salut complet sont offerts à quiconque viendra à Christ et croira en lui. Mais nous ne vous promettons aucune paix avec le monde ou avec le diable. Bien au contraire, nous vous avertissons qu'il doit y avoir un combat aussi longtemps que vous êtes dans ce corps. Nous ne vous empêchons pas, croyez-moi, de servir Christ, mais pas du tout. Mais nous voudrions que vous comptiez quel est le coût, quel est le prix, et que vous compreniez vraiment ce que le service de Christ comporte. L'enfer est derrière vous. Le ciel, lui, est devant vous. Notre demeure se trouve de l'autre côté d'une mer démontée. Des milliers, des dizaines de milliers ont traversé ces eaux houleuses, et malgré toute cette opposition, ils ont atteint le port où ils devaient être. L'enfer les a assaillis, mais n'a pas prévalu. Allez donc de l'avant, mes chers frères et sœurs, et ne craignez pas l'adversaire. Demeurez seulement en Christ, et la victoire sera sûre. Et cinquièmement, il ne reste plus qu'une chose à considérer. La sécurité de la véritable Église de Christ. Il y a une glorieuse promesse donnée par le puissant bâtisseur. C'est que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Celui qui ne peut pas mentir a engagé sa parole royale que toutes les puissances de l'enfer ne renverseront jamais l'Église véritable. Elle continuera et tiendra malgré chaque attaque. Elle ne sera jamais vaincue. Toutes les autres choses créées périssent et disparaissent, mais pas l'Église de Jésus-Christ. La main d'une violence extérieure ou les mythes d'un délabrement intérieur prévalent sur tout le reste, mais pas et jamais sur le temple que Christ a bâti. Les premières églises visibles dans de nombreux cas sont tombées en ruine et ont péri. Où est, chers amis, l'église d'Éphèse et l'église d'Antioche? Où est l'église d'Alexandrie et l'église de Constantinople? Où sont les églises corinthiennes, philippiennes et thessaloniciennes? Où en fait sont-elles toutes? Elles sont éloignées de la parole de Dieu. Elles étaient frères de leurs évêques, de leurs synodes, de leurs cérémonies, de leur érudition et de l'Antiquité. Elles ne se glorifiaient pas dans la vraie croix de Jésus-Christ. Elles n'étaient pas solidement attachées à l'Évangile. Elles n'accordaient pas à Jésus-Christ sa juste fonction ou la foi. Oui, la foi, sa bonne place. Elles sont désormais parmi les choses qui ont été enlevées et leur chandelier a été pris. Mais pendant tout ce temps-là, la véritable Église, elle a continué de vivre, gloire à Dieu. La véritable Église a-t-elle été oppressée dans un pays? Elle s'est enfuie vers un autre pays. A-t-elle été piétinée et opprimée sur un territoire? Alors, elle a pris racine et a fleuri sous un autre climat. Le feu, l'épée, les prisons, les amendes, les châtiments n'ont jamais pu détruire sa vitalité. Ses persécuteurs sont morts et partis vers la place qui leur revenait. Mais la parole de Dieu, elle a vécu, grandi et s'est même multipliée. Aussi faible que puisse paraître cette véritable Église aux yeux des hommes, elle est une enclume sur laquelle s'est brisé plus d'un marteau au cours des siècles passés et peut-être en brisera-t-elle beaucoup plus avant la fin. Celui qui pose ses mains sur elle touche la prunelle des yeux de Dieu. La promesse de notre texte est vraie de l'ensemble du corps de la véritable Église. Christ ne sera jamais sans un témoin dans le monde. Il y a eu un peuple, évidemment, dans la pire des époques, et le diable peut se déchaîner horriblement, pourquoi pas, mais l'Église peut être dans certains pays réduite à peu de choses. Mais, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais totalement. Le diable peut jeter certains des membres de la véritable Église en prison, et ça se fait aujourd'hui encore, et plus que jamais. Il peut tuer, brûler, torturer et même pendre. Mais après avoir tué le corps, il n'y a rien qu'il puisse faire. Il ne peut pas blesser votre âme et votre esprit. Il y a plusieurs siècles, lorsque les troupes françaises ont pris Rome, elles découvrirent sur les murs d'une cellule de prison sous l'Inquisition les mots d'un prisonnier. « Nous ne savons pas qui il est, mais ses paroles sont dignes d'être rappelées. Bien que mort, il parle encore. Il avait écrit sur les murs, très pauvre, probablement après un procès totalement injuste et une excommunication, on peut dire une excommunication encore plus injuste, les paroles suivantes, écoutez bien, qui vont vous frapper. Elles sont les suivantes. Béni soyez-vous, Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas me jeter hors de votre véritable Église. N'est-ce pas beau cela? Ce récit est absolument vrai. Toute la puissance de Satan ne peut pas jeter un seul croyant hors de la véritable Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, n'ayez pas peur de commencer à servir Christ, celui envers qui vous engagez votre âme, votre esprit, à tout pouvoir dans le ciel. Il a absolument tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, et il vous gardera. Il ne permettra jamais que vous soyez mis dehors. Les parents peuvent s'opposer, les voisins peuvent se moquer, le monde peut calomnier et ricaner. Ne craignez rien. Les puissances de l'enfer ne prévaudront jamais, absolument jamais. Croyez-moi, chers frères et sœurs, ne craignez pas pour l'Église de Christ. Lorsque des pasteurs meurent et que des saints sont enlevés, Christ peut toujours maintenir sa propre cause. Il suscitera des étoiles meilleures et encore plus brillantes. Les étoiles sont toutes dans sa main droite. Abandonnez toute pensée anxieuse à propos de l'avenir. Cessez d'être abattu par les mesures prises par les hommes d'État ou les complots des loups en vêtements de brebis. Christ pourvoira toujours pour sa propre Église. Christ veillera à ce que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre elle. Tout va bien. Bien que nos yeux ne puissent pas le voir, les royaumes de ce monde deviendront encore le royaume de Dieu et de son Christ. Vous pouvez me croire. Chers amis, de l'Église à la Pentecôte, nous lisons qu'une grande grâce reposait sur tous. Il y avait une unité à la fois dans la vérité et dans l'amour. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Là était l'unité dans la vérité. Ils étaient aussi d'un seul cœur et d'une seule âme. Là était leur union dans l'amour. Les églises aussi, plantées par l'apôtre Paul, et ceci parmi les nations païennes, brillèrent pendant une époque comme des chandeliers d'or, vraies lampes du sanctuaire, dignes d'être considérées comme étant des épîtres de Christ, personnification de sa pensée, connue et lue par tous les hommes pendant un temps d'église militante, c'est-à-dire cette partie de la famille de la foi qui existait sur terre, était de manière collective le pilier et le domaine de la sainte vérité. Elles étaient un piédestal ferme et inébranlable, établi pour soutenir la lampe de la vérité qui était élevée sur lui. Ce n'était pas un piédestal brisé, ni une lampe fracassée, mais une lampe brillant paisiblement et sereinement comme une lumière dans la nuit au milieu d'un océan de ténèbres, indifférent à la furie des eaux ou au fracas de la tempête. Au cours de sa vie, l'apôtre Paul a pu, par la grâce qui lui avait été donnée, maintenir les églises rassemblées du sein des nations païennes dans leur lieu de témoignage séparé. Il les maintient dans l'unité de la foi et du témoignage. L'expression de la chrétienté visible était alors quelque chose digne de la vérité qui avait été remise en tant que dépôt aux soins de l'Église. Il y avait une correspondance entre les bénédictions qui étaient de les leurs, on peut dire, dans le ciel, ah oui, et le caractère du témoignage pratique qu'il devait maintenir parmi les hommes. Comme cela eût été heureux si un tel témoignage avait été poursuivi, si seulement jusqu'à présent, avait été maintenue, la même unité dans la vérité qui était conservée à l'époque apostolique, combien de nombreuses controverses auraient été évitées et combien de nombreuses erreurs auraient été réprimées. Des vérités auraient dû être exposées, maintenues et élevé dans les témoignages et les conversations du peuple de Christ. S'il y a eu un seul esprit, un seul Père et une seule espérance de notre appel, eh bien, croyez-moi, aujourd'hui toujours, l'unité d'une seule et unique famille ne devrait-elle pas être manifestée et préservée, je vous le demande? Cela devrait. Rien ne l'empêcha, si ce n'est le mal humain et la puissance de Satan. Christ était heureux de se révéler à son peuple en lui confiant le dépôt de sa vérité, et ils ne se montrèrent indignes totalement de cette confiance. Par le Saint-Esprit, ils ne gardèrent pas cette bonne chose qui leur avait été confiée. Ah oui, chers amis, Christ avait prédit cette apostasie. Il a dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Notez, pour que vous puissiez voir que c'est vrai, Saint Matthieu chapitre 24, verset 12, et ceci même de la part de son propre peuple. Ah oui, l'apôtre Paul déclara aussi qu'il y aurait des temps difficiles, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Si, a-t-il dit, et s'adressant à l'Église à Rome, tu demeures ferme dans la bonté de Dieu, c'est bien. Autrement, tu seras aussi retranché. Romains, chapitre 11, verset 22, ça ne plaisante pas. Retranché de la racine, de la fertilité et de la bénédiction, tout comme Israël le fut auparavant. Donc, il n'y a pas eu dans l'Église une continuité de la bonté de Dieu. Vous pouvez en trouver la déclinaison même à l'époque apostolique. Regardez un peu l'ensemble des épîtres, en particulier celles de Jude, de Pierre et de Jean. Ne parle-t-elle pas de faux docteurs, porteurs d'hérésies odieuses, de nombreux antéchrists, d'hommes mauvais qui se sont glissés parmi les sensuels et les inconscients, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, de ceux qui, et ceux, et encore ceux qui aimaient la vérité, ils avaient reçu l'ordre de se méfier. Et comment? De se garder de leur influence et de discréditer leur voix. Mais ils n'ont pas agi ainsi. Livrés, pour utiliser une image de l'une des paraboles de notre Seigneur, fut chérie plutôt que réprimée. Elle grandit, étouffa le blé et prévalut. Les apôtres étaient à peine morts que l'ivraie régnait absolument partout. Les fonctions de l'Église, nombreuses d'entre elles, furent des fonctions inventées et tombèrent entre ses mains. Le contrôle des doctrines de l'Église fut usurpé par elle et elle sanctionna ou discrédita ce qu'elle voulait et qui elle voulait. Par conséquent, les doctrines distinctives de l'Évangile périrent. Prenez par exemple cette grande clé de voûte de notre foi. Le dédommagement réalisé pour les péchés de tous les croyants, faut bien le dire, par une seule et unique offrande sur la croix, hein, et parmi tous les écrits par lesquels l'Église fut inondée au cours des trois premiers siècles qui succédèrent aux apôtres, où le mot « dédommagement » ou la pensée indiquée par ce mot apparaissait, nous pouvons nous poser des questions. Croyait-on vraiment que Christ, par l'unique offrande de sa personne, avait réalisé un dédommagement total et final des péchés de son peuple? Posons-nous toujours la question. Il est donc clair que personne n'y croyait vraiment. Des pensées vagues et mal définies, respectant une certaine sorte d'expiation générale qui apportait un salut absolument à tous, aux Hitler et tous les autres criminels, mais pas à chacun en personne, supplantèrent toute compréhension véritable et scripturaire de la véritable efficacité d'un seul et unique sacrifice comme offre à ceux qui étaient amenés sous son pouvoir par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, chers amis, ce qui est nécessaire, c'est donc une réforme au sein de l'Église. Le premier regard de l'Église est évidemment vers Christ, qui est forcément son chef, qui est son Seigneur et son absolument tout. Et après cela, elle doit regarder à elle et au monde avec un équilibre approprié entre les deux. Lorsque je dis qu'elle doit regarder à elle, je n'entends pas par là qu'elle doit être centrée sur elle-même, hein, égoïstement. Je veux dire que l'Église doit constamment s'examiner pour voir si elle est dans la foi. Elle doit s'engager dans une sévère autocritique avec une bonne volonté enjouée de se racheter. Elle doit vivre dans un état de repentance permanent en recherchant Dieu de tout son cœur. Elle doit constamment vérifier sa vie et sa conduite avec les saintes écritures et amener sa vie en ligne avec la volonté de Dieu. En regardant au monde, je veux dire que l'Église doit connaître la raison de sa présence sur terre, qu'elle doit reconnaître sa dette envers toute l'humanité, selon Romains chapitre 1, versets 14 et 15, et qu'elle doit prendre au sérieux les paroles de son Seigneur quand il dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au aux extrémités de la terre. » Les Anglais et les Américains le disent tellement bien quand ils disent « Go into all the world and preach the gospel and heal those who are sick. » La tâche, voyez-vous, de l'Église est double. Répandre la chrétienté dans le monde entier et s'assurer que la chrétienté qu'elle répand est du genre du Nouveau Testament. Théoriquement, la graine étant la parole de Dieu, elle devrait produire le même genre de fruits sans se soucier de l'état spirituel de ceux qui la sèment. Mais cela ne marche pas de cette manière. un message identique prêche aux païens par des hommes de différents degrés de sainteté, elle produira différentes sortes de convertis. Il en résulte une qualité, ah oui, une qualité de chrétienté variant suivant la pureté et suivant la puissance de ceux qui le prêchent. La chrétienté se reproduira toujours d'après son espèce. Une église non spirituelle qui a l'esprit du monde, lorsqu'elle traverse les océans pour donner son témoignage à des peuples ayant une autre langue et une autre culture, est certaine de produire sur d'autres rivages une chrétienté ressemblant beaucoup au monde. Non pas seulement la parole dépouillée, mais le caractère du témoignage détermine la qualité du converti. L'Église ne peut rien faire de plus que de se transplanter. Ce qu'elle est dans un pays, elle le sera dans un autre. Une pomme sauvage ne devient pas forcément une pomme golden en étant transportée d'un pays à un autre. Dieu a écrit profondément sa loi dans toute vie. Tout doit se reproduire d'après son espèce. La notion populaire que la première obligation de l'Église, c'est de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre est fausse. Sa première obligation, croyez-moi, c'est d'être spirituellement digne de le répandre. Ça change tout. Notre Seigneur a dit « Allez », mais il a dit également « Restez ». Et le fait de s'attarder devait produire avant, je dis bien avant, le fait d'aller. Si les disciples étaient partis comme missionnaires avant le jour de la Pentecôte, cela eût été un désastre spirituel écrasant, car tout ce qu'ils auraient été capables de faire, cela aurait été de faire des convertis qui leur auraient ressemblé, et cela aurait changé en pire toute l'histoire du monde occidental, et cela aurait eu des conséquences à travers des siècles à venir. Répandre un flammeau, hein, une lumière de chrétienté inefficace et même dégénérée à des terres païennes. Ce n'est pas accomplir, croyez-moi, le commandement de Christ, ou nous débarrasser de notre obligation envers les païens. Ces paroles terribles de Jésus-Christ hantent mon âme. Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous-même. Gagner des hommes au judaïsme parmi les nations païennes, c'était à la fois une bonne chose et une chose juste à faire. Des milliers de nouveaux convertis furent gagnés à la religion de Moïse au cours des années d'ascendance spirituelle d'Israël. Mais à l'époque de Christ, le judaïsme avait sombré, et même si bas que son effort missionnaire faisait du tort plutôt que du bien. Il paraîtrait logique, oui, logique, qu'une église en dessous de la normale est impuissante, elle ne devrait pas, si elle est impuissante, de s'engager dans une activité missionnaire, jamais. Nous terminerons en disant notre humeur religieuse et sociale, au lieu d'être spirituelle et mondaine, eh bien, nous avons perdu l'art de l'adoration. Nous ne produisons plus des saints. Nos exemples, ce sont des hommes d'affaires qui sont très prospères, des athlètes célèbres et des personnalités du théâtre. Nous poursuivons nos activités religieuses d'après les méthodes du publiciste moderne. Alles muss modern sein heute. Et nos foyers ont été transformés en théâtre. Notre littérature est superficielle et nos cantiques frôlent le sacrilège et personne ne semble guère s'en soucier. Pas du tout, plus du tout, c'est affreux. Et, chers amis, meine liebe Freunde, nous devons avoir bientôt une meilleure sorte de chrétien, où dans l'espace d'une autre moitié de siècle, s'il y en a encore, et je ne crois pas trop, il se peut que nous n'ayons plus du tout de véritable chrétienté. Des nombres supplémentaires de semi-chrétiens ne sont pas suffisants pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous devons absolument, chers amis, avoir une réforme. Souvenez-vous de cette phrase. Nous allons, chers amis, terminer ensemble par la prière. Et nous pouvons prier maintenant ensemble, tranquillement. Si dans les épreuves de la vie, la confiance en toi, Seigneur, peut seule rassurer notre âme, combien plus ne nous est-elle pas nécessaire à l'heure où cette âme doit se préparer à paraître en jugement devant toi? Quel serait le fondement de son espérance si toi-même ne l'avais pas posée? Mais grâce soit rendue à l'éternelle miséricorde. Christ, il a souffert, lui le juste, pour les injustes. Jésus-Christ a été crucifié et nous ne devons plus rien craindre si nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'ayant été fait une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Seigneur, qui a détruit la mort et mis son évidence, la vie? Oui, tu as mis en évidence la vie et l'immortalité même par l'Évangile. Accorde-nous de croire en toutes tes promesses. Que nous puissions nous souvenir de toutes les déclarations de ta sainte parole et qu'elles soient, par l'efficace du Saint-Esprit, la consolation et l'appui de mon âme, de notre âme. Alléluia. Amen. Et chers amis, bien sûr, il est vrai que il est prêché un peu partout que tout le monde est sauvé, que tout le monde il est beau et gentil, que tout le monde se retrouvera au ciel. Les Allemands chantent tellement bien. Wir gehen alle, alle in den Himmel. Et ensuite, c'est la fête de la bière. Mais attention, on pourrait se tromper. Cela sera peut-être pas du tout ainsi. On n'ira pas alle zusammen in den Himmel. Pas automatiquement. Faisons attention à cela. Tout de même, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que le Seigneur vous bénisse, que vos familles soient bénies et aussi que vous soyez protégés dans votre santé. Cela est vraiment mon désir de tout mon cœur et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à bientôt, à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.